Jules Renard. Histoire naturelle. Le chasseur d'images. Il saute du lit de bon matin et ne part que si son esprit est net, son cœur pur, son corps léger comme un vêtement d'été. Il n'emporte point de provisions. Il boira l'air frais en route et reniflera les odeurs salubres. Il laisse ses armes à la maison et se contente d'ouvrir les yeux. Les yeux servent de filet où les images s'emprisonnent d'elles-mêmes. La première qu'il fait captive est celle du chemin qui montre ses os, cailloux polis, et ses ornières, veines crevées, entre deux haies riches de prunelles et de mûres. Il prend ensuite l'image de la rivière. Elle blanchit au coude et dort sous la caresse des saules. Elle miroite quand un poisson tourne le ventre, comme si on jetait une pièce d'argent. Et, dès que tombe une pluie fine, la rivière a la chair de poule. Il lève l'image des blés mobiles, des luzernes appétissantes et des prairies ourlées de ruisseaux. Il saisit au passage le vol d'une alouette ou d'un chardonneret. Puis il entre au bois. Il ne se savait pas doué de sens si délicat. Vite imprégné de parfums, il ne perd aucune sourde rumeur. Et, pour qu'il communique avec les arbres, ses nerfs se lient aux nervures des feuilles. Bientôt, vibrant jusqu'au malaise, il perçoit trop, il fermente, il a peur, quitte le bois et suit de loin les paysans mouleurs regagnant le village. Dehors, il fixe un moment, au point que son œil éclate, le soleil qui se couche et dévait sur l'horizon ses lumineux habits, ses nuages répandus pêle-mêle. Enfin, rentré chez lui, la tête pleine, il éteint sa lampe et longuement, avant de s'endormir, il se plaît à compter ses images. Dociles, elles renaissent au gré du souvenir. Chacune d'elles en éveille une autre, et sans cesse, leur troupe phosphorescente s'accroît de nouvelles venues, comme des perdrix poursuivis et divisés tout le jour, chantent le soir à l'abri du danger et se rappellent au creux des sillons. La poule. Patte jointe, elle saute du poulailler dès qu'on lui ouvre la porte. C'est une poule commune, modestement parée et qui ne pond jamais de dor. Éblouie de lumière, elle fait quelques pas, indécise, dans la cour. Elle voit d'abord le tas de cendres où, chaque matin, elle a coutume de s'ébattre. Elle s'y roule, s'y trempe, et, d'une vive agitation d'ailes, les plumes gonflées, elle secoue ses puces de la nuit. Puis elle va boire au plat creux que la dernière averse a rempli. Elle ne boit que de l'eau. Elle boit par petits coups et dresse le col en équilibre sur le bord du plat. Ensuite, elle cherche sa nourriture éparse. Les fines herbes sont à elle, et les insectes et les graines perdues. Elle pique, infatigable. De temps en temps, elle s'arrête. Droite sous son bonnet phrygien, l'œil vif, le jabot avantageux, elle écoute de l'une et de l'autre oreille. Et, sûre qu'il n'y a rien de neuf, elle se remet en quête. Elle lève haut ses pattes raides, comme ceux qui ont la goutte. Elle écarte les doigts et les pose avec précaution, sans bruit. On dirait qu'elle marche pieds nus. Il n'a jamais chanté. Il n'a pas couché une nuit dans un poulailler, connu une seule poule. Il est en bois, avec une patte en fer au milieu du ventre, et il vit depuis des années et des années sur une vieille église comme on n'ose plus en bâtir. Elle ressemble à une grange, et le faîte de ses tuiles s'aligne aussi droit que le dos d'un bœuf. Or, voici que des maçons paraissent à l'autre bout de l'église. Le coq de bois les regarde, quand un brusque coup de vent le force à tourner le dos. Et, chaque fois qu'il se retourne, de nouvelles pierres lui bouchent un peu plus de son horizon. Bientôt, d'une saccade levant la tête, il aperçoit, à la pointe du clocher qu'on vient de finir, un jeune coq qui n'était pas là ce matin. Cet étranger porte haut sa queue, ouvre le bec comme ceux qui chantent, et l'aile sur la hanche, tout bat en œuf, il éclate en plein soleil. D'abord, les deux coqs luttent de mobilité. Mais le vieux coq de bois s'épuise vite et se rend. Sous son unique pied, la poutre menace ruine. Il penche, raidit, près de tomber. Il grince et s'arrête. Et voilà les charpentiers. Ils abattent ce coin vermoulu de l'église, descendent le coq et le promènent par le village. Chacun peut le toucher, moyennant cadeau. Ceux-ci donnent un œuf, ceux-là un sou, et Madame Loriot une pièce d'argent. Les charpentiers boivent de bons coups, et, après s'être disputé le coq, ils décident de le brûler. Lui ayant fait un nid de paille et de fagots, ils mettent le feu. Le coq de bois pétille clair, et sa flamme monte au ciel. Qu'il a bien gagné. Chaque matin, au saut du perchoir, le coq regarde si l'autre est toujours là. Et l'autre y est toujours. Le coq peut se vanter d'avoir battu tous ses rivaux de la terre. Mais l'autre, c'est le rival invincible, hors d'atteinte. Le coq jette cri sur cri. Il appelle, il provoque, il menace. Mais l'autre ne répond qu'à ses heures. Et d'abord, il ne répond pas. Le coq fait le beau, gonfle ses plumes, qui ne sont pas mal, celle-ci bleue et celle-là argentée. Mais l'autre, en plein azur, est éblouissant d'or. Le coq rassemble ses poules et marche à leur tête. Voyez, elles sont à lui. Toutes l'aiment et toutes le craignent. Mais l'autre est adoré des hirondelles. Le coq se prodigue, il pose, çà et là, ses virgules d'amour, et triomphe d'un ton aigu de petit rien. Mais justement, l'autre se marie et carillonne à toute volée ses noces de village. Le coq jaloux monte sur ses ergots pour un combat suprême. Sa queue a l'air d'un pan de manteau que relève une épée. Il défie, le sang à la crête, tous les coqs du ciel. Mais l'autre, qui n'a pas peur de faire face au vent d'orage, joue en ce moment avec la brise et tourne le dos. Et le coq s'exaspère jusqu'à la fin du jour. Ses poules rentrent une à une. Il reste seul, enroué, vanné dans la cour déjà sombre. Mais l'autre éclate encore au dernier feu du soleil et chante de sa voix pure le pacifique angélus du soir. Canard. C'est la canne qui va la première, boitant des deux pattes, barboter au trou qu'elle connaît. Le canard la suit. Les pointes de ses ailes croisées sur le dos, il boite aussi des deux pattes. Et canne et canard marchent taciturnes comme un rendez-vous d'affaires. La canne d'abord se laisse glisser dans l'eau boueuse où flottent des plumes, des fientes, une feuille de vigne et de la paille. Elle a presque disparu. Elle attend. Elle est prête. Et le canard entre à son tour. Il noie ses riches couleurs. On ne voit que sa tête verte et l'accroche-cœur du derrière. Tous deux se trouvent bien là. L'eau chauffe. Jamais on ne la vide, et elle ne se renouvelle que les jours d'orage. Le canard, de son bec aplati, mordille et serre la nuque de la canne. Un instant il s'agite, et l'eau est si épaisse qu'elle en frissonne à peine. Et vite calmée, plate, elle réfléchit, en noir, un coin de ciel pur. La canne et le canard ne bougent plus. Le soleil les cuit et les endort. On passerait près d'eux sans les remarquer. Ils ne se dénoncent que par les rares bulles d'air qui viennent crever sur l'eau croupie. 2. Devant la porte fermée, ils dorment tous deux, joints et posés à plat, comme la paire de sabots d'une voisine chez un malade. Dinde. Elle se pavane au milieu de la cour comme si elle vivait sous l'ancien régime. Les autres volailles ne font que manger toujours n'importe quoi. Elle, entre ses repas réguliers, ne se préoccupe que d'avoir bel air. Toutes ses plumes sont empesées et les pointes de ses ailes raient le sol, comme pour tracer la route qu'elle suit. C'est là qu'elle s'avance. Et non ailleurs. Elle se rengorge tant qu'elle ne voit jamais ses pattes. Elle ne doute de personne, et dès que je m'approche, elle s'imagine que je veux lui rendre mes hommages. Déjà, elle glougloute d'orgueil. « Noble dinde, lui dis-je, si vous étiez une oie, j'écrirais votre éloge, comme le fit Buffon avec une de vos plumes. Mais vous n'êtes qu'une dinde. » J'ai dû la vexer, car le sang monte à sa tête. Des grappes de colère lui pendent au bec. Elle a une crise de rouge. Elle fait claquer d'un coup sec l'éventail de sa queue, et cette vieille chipie me tourne le dos. 2. Sur la route, voici encore le pensionnat des dindes. Chaque jour, quelque temps qu'il fasse, elle se promène. Elle ne craignent ni la pluie. Personne ne se retrousse mieux qu'une dinde, ni le soleil. Une dinde ne sort jamais sans son ombrelle. La pintade. C'est la bossue de ma cour. Elle ne rêve que plaies à cause de sa bosse. Les poules ne lui disent rien. Brusquement, elle se précipite et les harcèle. Puis elle baisse sa tête. Penche le corps, et de toute la vitesse de ses pattes maigres, elle court frapper, de son bec dur, juste au centre de la roue d'une dinde. Cette poseuse l'agaçait. Ainsi, la tête bleuie, ses barbillons à vif, cocardière, elle rage du matin au soir. Elle se bat sans motif, peut-être parce qu'elle s'imagine toujours qu'on se moque de sa taille, de son crâne chauve et de sa queue basse. Et elle ne cesse de jeter un cri discordant qui perce l'air comme une pointe. Parfois, elle quitte la cour et disparaît. Elle laisse aux volailles pacifiques un moment de répit. Mais elle revient plus turbulente et plus criarde. Et, frénétique, elle se vautre par terre. Qu'est-elle donc? La sournoise fait une farce. Elle est allée pondre son œuf à la campagne. Je peux le chercher si ça m'amuse. Elle se roule dans la poussière comme une bossue. L'oie. Tiennette voudrait aller à Paris comme les autres filles du village. Mais est-elle seulement capable de garder ses oies? À vrai dire, elle les suit plutôt qu'elle ne les mène. Elle tricote, machinale, derrière leur troupe, et elle s'en rapporte à l'oie de Toulouse, qui a la raison d'une grande personne. L'oie de Toulouse connaît le chemin, les bonnes herbes, et l'heure où il faut rentrer. Si brave que le jar l'est moins, elle protège ses sœurs contre le mauvais chien. Son col vibre et serpente à ras de terre, puis se redresse et elle domine Tiennette effarée. Dès que tout va bien, elle triomphe et chante du nez qu'elle sait grâce à qui l'ordre règne. Elle ne doute pas qu'elle ferait mieux encore. Et un soir, elle quitte le pays. Elle s'éloigne sur la route, bec au vent, plume collée. Des femmes qu'elle croise n'osent l'arrêter. Elle marche vite à faire peur. Et pendant que Tiennette, restée là-bas, finit de s'abêtir, et toute pareille aux oies ne s'en distingue plus, l'oie de Toulouse vient à Paris. Les pigeons. Qu'ils fassent sur la maison un bruit de tambour voilé. Qu'ils sortent de l'ombre, culbutent, éclatent au soleil et rentrent dans l'ombre. Que leur col fugitif vive et meure comme l'opale aux doigts. Qu'ils s'endorment le soir dans la forêt, si pressés que la plus haute branche du chêne menace de rompre sous cette charge de fruits peints. Que ces deux-là échangent des saluts frénétiques et brusquement, l'un à l'autre, se convulsent. Que celui-ci revienne d'exil avec une lettre et vole comme la pensée de notre amie lointaine. Ah, un gage! Tous ces pigeons, qui d'abord amusent, finissent par ennuyer. Ils ne sauraient tenir en place et les voyages ne les forment point. Ils restent toute la vie un peu niais. Ils s'obstinent à croire qu'on fait les enfants par le bec. Et c'est insupportable à la longue, cette manie héréditaire d'avoir toujours dans la gorge quelque chose qui ne passe pas. Les deux pigeons. Viens, mon gros, viens, mon gros, viens, mon gros. Le paon. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique. Léon, Léon. C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches, comme des marches de temple, d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue, toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète encore une fois la cérémonie. Le cygne. Il glisse sur le bassin comme un traîneau blanc, de nuage en nuage, car il n'a faim que des nuages floconneux qu'il voit naître, bouger et se perdre dans l'eau. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il le vise du bec et il plonge tout à coup son col vêtu de neige. Puis, tel un bras de femme sort d'une manche, il retire. Il n'a rien. Il regarde, les nuages effarouchés ont disparu. Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir. Et là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se reforme. Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne rame et s'approche. Il s'épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu'il mourra victime de cette illusion, avant d'attraper un seul morceau de nuage. Mais qu'est-ce que je dis ? Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie. Le chien. On ne peut mettre Pointu dehors par ce temps, et l'aigre sifflet du vent sous la porte l'oblige même à quitter le paillasson. Il cherche mieux et glisse sa bonne tête entre nos sièges. Mais nous nous penchons, serrés, coude à coude sur le feu, et je donne une claque à Pointu. Mon père le repousse du pied, maman lui dit des injures, ma sœur lui offre un verre vide. Pointu éternue et va voir à la cuisine si nous y sommes. Puis il revient, force notre cercle au risque d'être étranglé par les genoux, et le voilà dans un coin de la cheminée. Après avoir longtemps tourné sur place, il s'assied près du chenet et ne bouge plus. Il regarde ses maîtres d'un œil si doux qu'on le tolère. Seulement, le chenet presque rouge et les cendres écartées lui brûlent le derrière. Il reste tout de même. On lui rouvre un passage. « Allons, file, es-tu bête ?» Mais il s'obstine. À l'heure où les dents des chiens perdus crissent de froid, Pointu, au chaud, poils roussis, fesses cuites, se retient de hurler et rit jaune, avec des larmes plein les yeux. Les chiens. Les deux chiens qui s'étaient pris là-bas de l'autre côté du canal et que nous ne pouvions pas ne pas voir, Gloriette et moi, de notre banc, nous donnaient le spectacle d'un grotesque et douloureux collage dont la rupture s'éternise. Quand arriva près d'eux, Coursol. Il ramenait ses moutons par le canal et portait sur l'épaule une bûche de bois qu'il avait ramassée en chemin pour se chauffer l'hiver. Dès qu'il s'aperçut que l'un des deux chiens était à lui, il le saisit par le collier et laissa tomber d'abord sa bûche, sans hâte, sur l'autre chien. Comme les deux bêtes ne se séparaient pas, Coursol, au milieu de ses moutons arrêtés, dut frapper plus fort. Le chien hurla, sans pouvoir rompre. On entendit alors les coups de bûche résonner sur l'échine. « Pauvre bête !» dit Gloriette, pâle. « Voilà, dis-je, comme on les traite au pays. Et c'est étonnant que Coursol ne les jette pas au canal. L'eau agirait plus vite. »« Quelle brute !» dit Gloriette. « Mais non, c'est Coursol, un brave homme paisible !» Gloriette se retenait de crier. J'étais écœurée comme elle, mais j'avais l'habitude. « Ordonne-lui de cesser !» dit Gloriette. « Mais il est loin et il m'entendrait mal. « Lève-toi, fais-lui des signes !» S'il me comprenait, il répondrait sans colère. « Est-ce qu'on peut laisser des chiens dans cet état ?» Gloriette regardait, toute blanche, lèvres ouvertes, et Coursol tapait toujours sur le chien courbaturé. « Ça devient atroce. Veux-tu que je m'en aille ?» dit Gloriette, prise de pudeur. « Tu pourras mieux te révolter contre ce misérable. » J'allais répondre, je ne sais quoi, quelque chose de ce genre. « Ce n'est pas sur notre commune. » Lorsqu'un dernier coup de bûche, qui pouvait les assommer, désunit les deux bêtes. Coursol, ayant agi comme il devait, poussa ses moutons vers le village. Les chiens, libres, restèrent quelques instants l'un près de l'autre. Ils tournaient, penauds, sur eux-mêmes, encore liés par le souvenir. Dédèche est mort. C'était le petit griffon de mademoiselle, et nous l'aimions tous. Il connaissait l'art de se pelotonner n'importe où, et même sur une table, il semblait dormir au creux d'un nid. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable, et il ne nous caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue, finement. Il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien un rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grogner de la gorge avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment qu'à nos cris de joie nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, mademoiselle lui disait « Si tu parlais donc un tout petit peu !» Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien les gestes, il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement, et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner, il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dédèche se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien, qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, happa cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta et s'enfuit. Ah, si mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre à la gorge, le rouler et l'étouffer dans la poussière! Dédèche guérit de la blessure d'écrou, mais il lui resta aux reins une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci. Et à peine rentré, il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble, et mademoiselle jetait son cri d'alarme monotone. « Une éponge, de l'eau, du soufre !» On se mettait en colère, on grondait Dédèche d'une voix terrible, et on le battait avec des gestes violents qui ne le touchaient pas. Son regard fin nous répondait « Je sais bien, mais que faire ?» Il restait gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait, comme s'il avait sur l'échine les dents du chien de braconnier. Et puis, son odeur finissait par inspirer des maux aux amis les moins spirituels. Le cœur même de mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer Dédèche. C'est très simple. On fait une incision dans une bouchée de viande, on y met deux poudres, une de cyanure de potassium, l'autre d'acide tartrique. On recoud avec du fil très fin. On donne une première boulette inoffensive pour rire, puis la vraie. L'estomac digère et les deux poudres, par réaction, forment de l'acide cyanhydrique ou prussique qui foudroie l'animal. Je ne veux plus me rappeler qui de nous administra les boulettes. Dédèche attend, couché, bien sage, dans sa corbeille. Et nous aussi nous attendons. Nous écoutons de la pièce à côté, affalés sur des sièges, comme pris d'une fatigue immense. Un quart d'heure passe, une demi-heure. Quelqu'un dit doucement « Je vais voir ». « Encore 5 minutes !» Nos oreilles bourdonnent. Ne croirait-on pas qu'un chien hurle quelque part, au loin, le chien de braconnier ? Enfin, le plus courageux de nous disparaît et revient dire d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. « C'est fini !» Mademoiselle laisse tomber sa tête sur le lit et sanglote. Elle cède aux sanglots, comme on a le fou rire, quand on ne voulait que rire. Elle répète, la figure dans l'oreiller, « Non, non, je ne boirai pas mon chocolat ce matin !» À la maman qui lui parle de Marie, elle murmure qu'elle restera vieille fille. Les autres rattrapent à temps leurs larmes. Ils sentent qu'ils pleureraient tous et que chaque nouvelle source ferait jaillir une source voisine. Ils disent à mademoiselle « Mais tu es bête, ce n'est rien !»« Pourquoi rien ? C'était de la vie ! Et nous ne pouvons pas savoir jusqu'où allait celle que nous venons de supprimer !» par pudeur, pour ne pas avouer que la mort d'un petit chien nous bouleverse, nous songeons aux êtres humains déjà perdus, à ceux qu'on pourrait perdre, à tout ce qui est mystérieux, incompréhensible, noir et glacé. Le coupable se dit « Je viens de commettre un assassinat par trahison. » Il se lève et ose regarder sa victime. Plus tard, nous saurons qu'il a baisé le petit crâne chaud et doux de Dédèche. Ouvre-t-il ses yeux? Oui, mais des yeux vitreux qui ne voient plus. Il est mort sans souffrir? Oh, j'en suis sûr. Sans se débattre? Il a seulement allongé sa patte au bord de la corbeille, comme s'il nous tendait encore une petite main.